Le 22 novembre, dans les locaux de l'OCCE à Tours, un groupe d'enseignants ont découvert le fonctionnement d'un projet pédagogique radio. À cette occasion, ils ont enregistré l'émission que vous allez entendre. Bonne écoute!
Bonjour et bienvenue dans Faites entrer l'enseignant. Bonjour Elodie.
Bonjour Gabriel. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui au programme dans Faites entrer l'enseignant, une chronique, un débat, un entretien et pour finir un micro-trottoir tout en nostalgie.
Alors on va commencer avec Sylvie. Bonjour Sylvie. Ça faisait longtemps dis donc.
Mais oui, au moins une semaine. Ça nous avait manqué.
Alors, qu'est-ce que tu nous as prévu pour ta petite chronique, toujours passionnée par ton métier d'enseignante ?
Eh bien oui, j'ai beau essayer d'y remédier, je n'y arrive pas. L'école, qu'est-ce que tu veux ? L'école, quand on y entre, on en prend pour aller au bas mot 15 ans. Il y en a même qui sont, vous savez, je ne voudrais vexer personne, mais masochistes. Ils en prennent volontairement pour perpète. Ce sont les enseignants.
Mais pourquoi des gens n'arrivent pas à s'en sortir ?
C'est bien là le mystère. Comment un enfant arrivé normal dans cette institution décide d'y rester ? Parce qu'il faut bien le dire, quand les enfants arrivent à l'école pour la première fois, ils ne veulent pas s'y incruster. Certains pleurent beaucoup.
On pourrait même aller jusqu'à dire qu'il y en a certains qui hurlent.
Tout juste, et ils ne sont pas les seuls. Il arrive que des parents honteux de les abandonner, ces chers bambins, dans ce lieu mystérieux, dans lequel eux-mêmes n'ont pas que des souvenirs de bonheur intense, se mettent eux aussi à pleurer.
Et comment se situe l'enseignant dans tout ça ?
Eh bien, mes chers Gabriel et Elodie, entre toutes ces larmes, l'enseignant est isolé sur son île de zénitude. Car oui, l'enseignant en ce premier jour est encore zen. Il est bienveillant, plein de compassion, errant des uns aux autres, tentant de réconforter ces êtres humains en perdition.
Mais rassurez-moi, il n'y a pas que des cris de désespoir.
Et non, aussi incroyable que cela paraisse, il y en a qui sont contents de venir. On les voit butinant de coin-jeu en coin-jeu, découvrant avec excitation, abandonnant des parents bras ballants, déçus qu'ils ne soient pas davantage traumatisés.
Et cela dure, Sylvie ?
Quoi, le calme ? Faut pas rêver non plus. Ces enfants idéaux du premier jour vont rejoindre la masse larmoyeuse. Ben oui, quoi, l'école, ils ont vu ce que c'était, pas la peine d'y revenir. Ils vont pas faire ça tous les jours.
Ah, les pauvres, s'ils avaient su.
Ils auraient pas venu.
Du coup, pourquoi y en a-t-il qui y restent ?
Ceux qui deviennent enseignants, vous voulez dire ? J'ai ma réponse. Y a rien de plus chouette que de retrouver les mêmes, les hurleurs, qui viennent en courant. Avec un sourire jusqu'aux oreilles, sans un regard en arrière. Tornade entrant dans la classe avec un tonitruant « Bonjour maîtresse !» Il n'y a pas plus beau moment à vivre que de voir un enfant découvrir qu'il sait faire quelque chose qu'il ne savait pas avant. Les yeux illuminés par la surprise et la fierté. Et là, le masochiste peut se dire qu'il a bien raison de l'être.
Eh bien Sylvie, bien belle chronique.
Merci, à bientôt.
À bientôt Sylvie. Alors, et maintenant, sortez les crayons et les stylos, c'est l'heure de prendre des notes avec notre débat du jour. Alors, nous revoilà. Présentation des quatre personnes. Donc à ma gauche, nous allons avoir Madame Bondeau, Madame de la Maison d'Hier, et à ma droite, le docteur Pijanski et Madame Lussac. Donc c'est elles qui vont nous faire le débat du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'école en alternance, l'école de la confiance. Alors, Madame de la Maison d'Hier, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce sujet ?
Oui, bien sûr, messieurs, dames, bonjour. D'abord, je me permets de me présenter. Madame de la Maisandière, je suis déléguée ministérielle, chargée de mission dans la réforme de l'éducation nationale. Et je tiens donc ce soir à vous présenter cette grande réforme que nous avons voulu avec l'ensemble des partenaires éducatifs, sociaux, économiques, scientifiques et bien évidemment avec les représentants de parents d'élèves. Pour mettre en œuvre cette école de l'alternance, cette école de la bienveillance, cette école de la confiance. Il s'agira donc, si vous voulez que j'aille tout de suite plus loin, il s'agira donc d'alterner les enseignements entre l'école, les parents, l'entreprise et bien sûr des temps de vacances.
Alors, je vois dans le regard de nos invités que tout le monde n'est pas convaincu par ce joli petit discours.
Effectivement.
Vous êtes madame
Lussac. Je suis la déléguée de la Fédération des parents d'école, la PEP, les parents d'élèves en puissance. Eh bien, madame de la Maisandière, je vous remercie, mais surtout je remercie Studio Zef de m'avoir accueillie, car ça fait peu de fois que nous sommes accueillis, nous, les parents d'élèves en puissance.
Donc, madame Lussac, nous avons quand même travaillé main dans la main dans l'élaboration de ce projet.
Oui, effectivement, mais je suis absolument contre cette nouvelle réforme, car je voulais vous expliquer en quelques mots.
J'aurais bien voulu vous en entendre à ce sujet bien avant.
Oui, mais alors, la kermesse de l'école. Si je comprends bien, nous avons une semaine d'école avec les enseignants, une semaine d'école avec les parents. Effectivement, une semaine d'école à l'entreprise et une semaine commune de vacances. Mais alors, la kermesse de l'école, expliquez-moi quand est-ce qu'on cale la kermesse de l'école.
Madame Lussac, d'abord je vous demanderai de calmer un petit peu vos ardeurs. Bien sûr, il s'agit que l'année scolaire soit toujours une année scolaire, avec un début et une fin. Dans ce sens, il est évident que nous maintenons au minimum 3 semaines de vacances au mois de juillet, afin de marquer symboliquement la fin de l'année scolaire. Dans ce cadre, la kermesse aura toute sa place.
Pendant les vacances?
Pas pendant les vacances, madame Lussac, vous savez très bien que la kermesse se situe toujours à la fin d'une année scolaire pour clore l'année. Et donc là, elle trouvera sa place naturellement fin juin, début juillet, en fonction de la date exacte.
Alors,
des
madame...
vacances. Il ne me semble pas que ce soit d'ailleurs le point le plus important de cette réforme.
Merci madame de la Maisandière, merci madame Lussac. Alors, on a quand même deux autres invités, Madame Bondo et le docteur Pijonski. Il serait bien de les entendre. Donc, qu'avez-vous à dire à ce sujet?
Alors, Madame Bondo, enseignante syndiquée. Donc, déjà, je me fais le relais de mes collègues pour remercier Madame la déléguée ministérielle de cette nouvelle réforme.
Je vous en prie.
Nous aurions été déçus si nous avions eu le temps d'éprouver la précédente. Voilà. Donc, il semblerait que nous soyons consultés, une fois n'est pas coutume. Donc, concernant ce projet d'école alternée, en termes d'effectifs, on vit un rêve éveillé. Ça veut dire qu'au quotidien, nous aurons 7 élèves par classe.
Oui, parce qu'il faut peut-être expliquer à nos auditeurs qu'il s'agit de partager le mois en 4 semaines avec une alternance entre une semaine avec les enseignants, une semaine avec les parents, une semaine d'entreprise et une semaine de vacances. Ce qui permettrait bien évidemment, petit calcul mathématique simple, de partager les classes en 4.
Docteur Pijonski, je vous sens très attentive à tout ce qui est dit. Au niveau pour l'enfant, vous en pensez quoi, vous, de cette réforme?
Alors, en ce qui concerne la plasticité j'y arriverai pas.
Prenez votre temps.
En ce qui concerne la plasticité cérébrale, il est fort important de souligner que la dernière étude du docteur Landau-Schmidt, publiée aux États-Unis le 21/11/2017, donc c'est tout récent, que cette étude prouve que plus l'enfant est confronté à des situations différentes, plus sa capacité d'adaptation se développe.
Merci madame Pijonski de donner un petit peu de crédit à cette réforme.
Donc, de fait, l'enfant ne sera pas confronté seulement à 2 modèles, comme c'était jusqu'à présent l'école et la maison, mais un troisième acteur entrera dans la formation de l'enfant, puisqu'il sera confronté pendant un troisième temps à la société elle-même, ce qui permet de multiplier ces situations d'apprentissage.
Docteur Pijonski, il faudrait franchement
Pijonski,
que vous mettiez...
S'il vous plaît.
Oui, Pijonski.
Madame Lussac, rapidement, il nous reste une petite minute.
Oui, je voulais simplement expliquer au docteur Pijonski qu'effectivement, il faut mettre des points à la fin des phrases, sinon on ne comprend pas le sens de vos phrases. Voilà.
D'accord. Madame oui, Bondeau, alors, un dernier
oui,
mot.
En tant qu'enseignante, justement, vous parlez de différents modes d'enseignement avec différents intervenants. Moi, je m'interroge sur le suivi du parcours de l'élève, à quel moment on articule justement ces différents temps. Et puis surtout, le rôle de l'entreprise, parce que bon, la pédagogie
écoutez, écoutez,
de projet, c'est bien.
Madame Bondeau, écoutez, Madame Bondeau.
Pédagogie de projet, écoutez, c'est bien, mais où est, la pédagogie est un métier et l'entreprise va prendre en charge de quelle manière les enfants.
Madame de la Maison d'Hier, je vous propose qu'on arrête le débat ici, c'était très intéressant.
Je voudrais juste rajouter, faisons-nous confiance.
Mais nous n'avons pas besoin de parler du point de vue de la cognition.
Faisons-nous confiance dans un climat de bienveillance.
Piégez-nous le
alors, s'il vous plaît. On va laisser ces questions en suspens. Nous vous réinviterons la prochaine fois pour alimenter ce nouveau débat. Donc, nous vous remercions d'avoir participé avec tant d'engouement à ce sujet.
Merci pour votre accueil.
Merci à vous, messieurs dames.
Merci.
On reparlera de la kermesse.
et je propose, pour se détendre un petit peu les neurones, d'écouter tout de suite Peter Lund avec Gypsy Car.
Heading downtown, bracing 40. Heading downtown, bracing 40. Serving papers in my hand. Serving papers in my hand.
C'était donc Peter Lund avec Jessica. Il est temps maintenant d'accueillir notre journaliste tout-terrain, Marion Flamme.
Bonjour.
Pour l'entretien du jour. Alors Marion, qui est ton invité aujourd'hui ?
Aujourd'hui, j'ai la chance incroyable de recevoir Paul François, troubadour castorien, enchanteur des oreilles de 7 à 77 ans. Paul François, en 91, quitte l'international pédagogique d'Yves et Béatrice pour créer la PNPC, la pédagogie nouvelle avec Père Castor. Depuis, il alimente à rebours l'imaginaire collectif grâce à ses roule-galettes, poules rousses et autres audacieux petits cochons. Paul-François vient aujourd'hui partager avec nous sa vision du père Castor à l'heure des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Paul-François, bienvenue.
Bonjour Marie-Flamme.
Avant toute chose, comment devient-on troubadour castorien ?
Eh bien, comme vous l'imaginez, mes relations avec Père Castor commencent dès mon plus jeune âge, au coin du feu, avec mes parents, qui se sont relayés chaque soir, infatigablement, pour m'éclairer sur le monde, à travers les histoires incroyables que Père Castor nous propose. Alors, de cette expérience est née une passion, de la passion, une profession, et aujourd'hui, c'est tout un courant pédagogique, une façon de voir le monde même, et l'enfant qui m'habite.
Paul-François, la nostalgie est très présente dans le discours. De fait, comment faire vivre cette PNPC à l'heure où l'ultra-connexion envahit nos foyers et nos salles de classe ?
Je crois que les histoires de Père Castor, c'est un peu comme chez Spinoza ou Shakespeare. Il y a tout ce qui définit l'homme. Père Castor est une figure tutélaire et la richesse de son répertoire nous permet aujourd'hui encore de plonger l'enfant tantôt dans l'imaginaire, le fantastique, la morale et même, j'y crois, fondamentalement, la philosophie. Aujourd'hui, au-delà de ce livre, c'est un catalogue complet et moderne que nous proposons et que je viens ici promouvoir. Nos sites web, nos applications Android, notre page Facebook, elles existent, elles sont là pour alimenter l'ensemble des professionnels de l'éducation qui nous soutiennent et que j'ai le bonheur de nommer aujourd'hui mes camarades castoriens.
Paul-François, on a bien compris que vous avez su dompter votre époque et que vous surfez sur la vague 2.0. Cependant, comment comptez-vous accrocher vos petits lecteurs avec des petits poussés ou des Pinocchio quand Batman et Spider-Man défendent nos villes ?
Eh bien, Marion, c'est une question à laquelle je réponds souvent, mais je crois que justement, à l'heure où tout change si vite et de façon si chaotique, les histoires de Père Castor constituent des piliers sur lesquels les enfants peuvent s'appuyer pour grandir. Et à quoi bon s'accrocher à Dark Vador, je vous le demande, cette pâle et insipide la copie, quand on a le grand méchant loup ? Pourquoi ? Je vous le demande.
En somme, vous vous appuyez sur de véritables images fantasmagoriques pour faire grandir et donner à réfléchir.
Tout à fait.
Peut-être qu'il serait temps de faire taire vos détracteurs, Paul-François, en nous offrant un extrait de votre œuvre. Pardon. Je vous en prie.
Pan, 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 fit-il. Ouvre-moi ta maison de briques, petit cochon.
Oh non, je n'ouvrirai pas.
Alors je taperai du pied, je soufflerai, je cognerai. Ta maison tombera par terre et je vous mangerai tous les trois.
Tape si tu veux, souffle si tu veux, cogne si tu veux, je n'ouvrirai pas.
Le loup tapa du pied, il souffla, il cogna, et la maison de briques ne tomba pas. Il tapa, il souffla, il cogna encore. La maison de briques était solide, et le petit cochon riait derrière la fenêtre.
Merci Paul-François.
Merci à vous.
Merci Paul-François, merci Marion. Donc là, on a pu en apprendre un peu plus sur le père Castor et ses trois petits cochons. Merci. Alors Marion, on te retrouve pour le prochain entretien la semaine prochaine.
Oui, je vous réserve une surprise de taille.
Avec un nouvel entretien et une nouvelle personnalité à découvrir.
Tout à fait.
Gabriel, si on terminait cette émission par une note un peu plus nostalgique, qu'est-ce que tu en penses ?
Avec plaisir, Elodie.
Alors, dans quelques minutes, on va vous proposer un micro-trottoir qui va faire appel à vos lointains souvenirs d'école. Mais Gabriel, si tu devais, comme ça, nous raconter un souvenir d'école qui t'a marqué, tu nous raconterais quoi ?
Alors moi, je me souviens d'un enseignant qui nous jetait des craies pour qu'on s'arrête de parler.
Et ça marchait ?
Eh bien, malheureusement, il y avait pas mal de traces de craies par terre.
Et tout de suite, le jingle micro-trottoir.
Odeur des pluies de mon enfance, dernier soleil de la saison, la vieille classe de mon père, pleine de guêpes écrasées, sentait l'encre, le bois, la craie.
En sortant de l'école, quels souvenirs nous reste-t-il ? Nous sommes partis dans les rues de Tours pour poser cette question à des passants, petits et grands. On réalise une émission de radio sur l'école. Oui. Est-ce que vous auriez un petit souvenir d'école à nous raconter ?
Ah, nous, c'était les cours de récréation. Ouais. Première partie de foot avec les copains, du coup. Et après, non, c'est des bons souvenirs quand même, malgré tout.
les petites fêtes qu'on faisait. Oui.
De fin d'année.
Les lundis, par exemple.
C'est quoi, les
connaissais pas, c'était les danses où on dansait pareil, quoi.
Ah,
tout en blanc et tout. Bon, c'était joli.
On voulait savoir si vous aviez un souvenir comme ça, si on vous demande école, ça, qu'est-ce que...
Tout de suite.
Qu'est-ce qui vous vient à
l'esprit? Tout de suite. Hein. J'étais dans une école de bonnes sœurs. Et c'est les matchs de foot avec les bonnes sœurs qui relevaient leurs jupes. Bah oui, carrément, ouais, relevaient leurs robes et jouaient au foot avec nous. Voilà, c'était à Neuville-au-Roi et c'est une école privée qui existe toujours. C'est le souvenir qui me vient juste à l'instant.
C'est parfait, merci beaucoup.
Bon courage.
Ah bah, rien du tout. Moi, j'ai fait l'école au Maroc là-bas. C'était fait le bêtise, béni toute la journée.
Oui, c'est vrai. Hein.
Mais nous, on n'a pas fait beaucoup d'école, vous savez, à nos âges, nous, c'était vraiment le minimum. Hein. On n'avait pas les moyens, les parents, de nous faire faire des études. C'était plus comme maintenant. Donc, je ne sais pas quoi vous dire. Moi, j'ai un bon souvenir. C'est pas si c'est un bon ou un mauvais. On jouait dans la cour et puis on jouait avec des pierres un peu, je ne sais pas comment on appelait ça. Et du coup, j'ai dû cogner quelqu'un et je me suis enfuie, je suis partie à la maison. C'est tout ce que je me souviens. Mais sinon, voilà, c'était la routine, mais je ne pourrais pas vous dire grand-chose. Ça, je me souviens, je me suis cachée à la maison et après, tout le monde est venu me chercher. Je dis, qu'est-ce qui se passe? C'est le souvenir que j'ai, mais autrement...
Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. On réalise une émission de radio sur l'école. Est-ce que vous auriez un petit souvenir d'école à nous raconter, quelque chose? Quand je vous dis école, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Quel souvenir remonte en premier?
Ah, mais c'est tellement loin. Oui, c'est vraiment très loin. Mais c'est l'école primaire. Et les souvenirs? Ben, les récrés quand même. Hein. Tout de suite, hein, les récrés. Et puis les rondes, et puis les chansons de, voilà, de ce temps-là, de la fin des années 40. Donc,
c'est en Allemagne, quand on va pour la première fois à l'école primaire, en cours préparatoire, c'est une fête en fait, depuis longtemps déjà. Maintenant je sais que ça doit en devenir une en France aussi. Mais là ça fait très longtemps, c'est vraiment la tradition. Et les enfants ont on leur offre des grosses pochettes surprises. De toutes les couleurs, comme ça. Et,
avec des chocolats et quelque chose.
Il hein. y a des choses à l'intérieur, comme dans les... Enfin, je ne sais pas si vous avez connu les pochettes surprises. Moi, quand j'étais jeune, il y en avait, mais pas des grandes comme ça. Elles sont vraiment très grandes. Presque aussi grandes que les enfants. Et voilà, ça, c'est vrai. Et voilà, et on fait des photos. Moi, j'ai vécu en Allemagne, j'ai des petits-enfants en Allemagne, et j'ai des photos comme ça de mes petits-enfants avec leurs grandes pochettes surprises. Tout le monde fait des photos. C'est vraiment un événement, voilà.
Eh bien, merci Christelle et merci Mathilde pour ce formidable radio-trottoir.
Mais de rien.
C'est déjà l'heure de nous quitter. Faites entrer l'enseignant, c'est déjà fini pour aujourd'hui.
Eh oui, c'est déjà la fin. Donc...
On se retrouve bientôt.
Effectivement, Elodie.
Et on vous laisse en compagnie de nos collègues.